Et aujourd'hui, nous abordons la fin du chapitre de la lettre aux Hébreux. On a rappelé qu'en fait, l'auteur n'est probablement pas l'apôtre Paul, par certains aspects, mais en même temps, par d'autres, on le verra... Il parle de personnes qui étaient chères au cœur de Paul. Et là, il nous a parlé à la fin de cette lettre de l'amour, de l'espérance, plutôt de la foi, de l'espérance et de l'amour. Dans le chapitre 10 plus exactement, parle de l'espoir, les premiers versets, l'espoir ou l'espérance. Le chapitre 11, c'est bien sûr le grand chapitre de la foi, avec des descriptions de ce qu'est la foi et des exemples de la foi qui est à l'œuvre dans la vie des enfants de Dieu, que ce soit aussi bien la foi qui triomphe, la foi qui voit des victoires, que la foi qui persévère dans la douleur. Nous, on aimerait bien que la foi, ce soit seulement la foi qui gagne tout le temps. Et la foi, elle gagne, mais pas toujours ici-bas. Et certains s'attachent à insister seulement sur cette foi qui triomphe toujours, d'après eux. Mais il est clair qu'il y a des héros de la foi qui n'ont pas été libérés de leurs souffrances. Et c'est aussi une forme de victoire que de continuer à s'attacher à Dieu quand les choses sont difficiles. Et puis le chapitre 13, il nous parle de l'amour. Dans 1 Corinthiens 13, il nous disait qu'il y avait trois choses, trois vertus qui étaient justement la foi, l'espérance et l'amour, mais que le plus grand... La plus grande de ses vertus, c'était l'amour. Dieu est amour. C'est intéressant, sur la promenade des Anglais, il y a cet artiste qui a repeint ces dessins qu'il avait fait à l'occasion de l'attentat de Nice. Il y en avait un qui est sur le courage et l'autre qui est sur l'amour. Et je trouve très beau qu'en fait, sur la promenade, on peut voir l'amour. L'amour, la Bible nous dit que c'est Dieu est amour. L'amour, il est défini par Dieu, pas par Hollywood ou par les chanteurs de variété. Et là, Paul nous a dit... Paul, vous voyez, j'ai un biais. Je pense que souvent que c'est peut-être lui, mais peu importe, qui a écrit la lettre. L'auteur... nous a parlé d'abord d'aimer en citant plusieurs choses. Il nous a dit de... On a vu qu'il faisait un jeu de mots en grec qui ne nous apparaît pas quand on le lit en français. C'est le mot... Il utilise le mot philo, philéo, qui veut dire aimer de façon comme un camarade, comme d'un amour fraternel. Il parle justement de nous maintenir, de persévérer dans l'amour fraternel. Et là, c'est dans cet amour philéo. Et puis, il nous dit de ne pas oublier l'hospitalité. Et l'hospitalité, c'est le mot qui se dit philéoxénia, l'amour de l'étranger. Et puis ensuite, il nous dit surtout de ne pas nous complaire dans l'amour de l'argent, philéo argoura, l'amour de l'argent. Et donc, il utilise ce procédé pour nous rappeler des choses qu'il faut faire et ne pas faire. On doit persévérer dans l'amour fraternel, on doit persévérer dans l'hospitalité, on ne doit pas s'intéresser... être guidé par l'amour de l'argent. Il parle ensuite du mariage. Et on a dit que Le mariage était souvent déshonoré par la façon dont on le voyait dans notre société. Le fait que de moins en moins de personnes se mariaient, le fait qu'on essayait surtout de le redéfinir à notre petite sauce humaine, sans avoir égard pour la volonté et la définition que Dieu en donne. Et il continue, donc il nous parle de cet amour, un devoir d'amour, c'est la suite donc de ces premiers versets qu'on a lus. Et on va lire à partir du verset 7 dans le chapitre 13 de la lettre aux Hébreux. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quel est le bilan de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines étrangères. Il est bon en effet que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont été d'aucun profit à ceux qui s'en sont fait une règle. Nous avons un autel dont ceux qui accomplissent le service du tabernacle n'ont pas le droit de tirer leur nourriture. En ce qui concerne les animaux dont le sang est apporté par le grand prêtre dans le sanctuaire pour l'expiation du péché, leur corps est brûlé à l'extérieur du camp. Voilà pourquoi Jésus aussi, afin de procurer la sainteté au peuple au moyen de son propre sang, a souffert à l'extérieur de la ville. Sortons donc pour aller à lui à l'extérieur du camp en supportant d'être humilié comme lui. En effet, nous n'avons pas de cité permanente, mais nous recherchons celle qui est à venir. Par Christ, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Et n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Et puis un dernier verset pour l'instant. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur votre âme en hommes qui devront rendre des comptes. Ils pourront ainsi le faire avec joie et non en soupirant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Il a parlé donc de l'amour fraternel, de l'hospitalité, de l'amour qu'on devait avoir pour les opprimés, ceux qui étaient en prison, pour la pureté. Il nous a encouragé vivement au contentement. Et puis là, il parle d'un autre groupe qui a aussi besoin d'amour. C'est un peu bizarre pour moi de vous dire cela, de vous parler de ce sujet, mais c'est peut-être un sujet qu'on éviterait si on choisissait nos textes, si on en enseignait par thème. Mais là, comme on enseigne la Bible livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, je me retrouve à vous dire que j'ai besoin d'amour. Vos conducteurs, vos responsables, vos leaders, vos dirigeants spirituels, vos anciens, vos pasteurs ont besoin eux aussi d'être aimés. Il nous dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu et considérez quel est le bilan de leur vie et imitez leur voix. Il veut vous rappeler que de prier, c'est ça, de vous souvenir, de vos responsables spirituels. Mais cela, il va nous dire donc d'imiter leur foi, de les suivre. Mais cela demande à être légitimé. On a plein de gourous, de faux prophètes, aujourd'hui encore, des télévangélistes. Ils ne sont pas tous nécessairement mauvais, mais il y en a parmi eux qui sont plus après votre portefeuille qu'après votre âme. Il faut que leur service à votre égard soit légitimé donc par deux choses essentielles. La première, c'est leur fidélité à la parole de Dieu. Est-ce qu'ils vous enseignent la Bible ? Alors, pas nécessairement comme nous avons le parti pris, la coutume, l'insistance à enseigner verset par verset, livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mais est-ce que leur enseignement se fonde sur des passages bibliques, ou est-ce qu'ils lisent un verset biblique et puis après vous déversent beaucoup de philosophie, de psychologie, de blagues? Est-ce qu'ils ont un respect de la parole de Dieu? Et puis la deuxième chose qui va légitimer votre respect, votre amour, vos prières pour eux, ça va être une conduite digne de Dieu, ce qui est appelé ici, verset, le bilan de leur vie. Est-ce que leur vie reflète Jésus-Christ ? Est-ce qu'ils recherchent à honorer Dieu par leur vie, par leurs actions, par leur comportement au quotidien, leur vie sur la durée aussi ? Le bilan, au bout d'un moment, on peut faire un bilan, et le vrai bilan, ça se fait à la fin de la vie. Alors il sera peut-être trop tard pour leur montrer de l'amour si vous attendez que ce bilan soit fermé, définitif et scellé par la mort. Mais est-ce qu'ils reflètent, ou ils essayent, parce que c'est jamais la perfection, est-ce qu'ils essayent de refléter Jésus-Christ ou pas? Et d'où l'importance de persévérer pour ceux qui sont dans le ministère jusqu'à la fin. Il y a malheureusement trop de responsables spirituels qui ont bien commencé leur course, mais qui se font tromper par Satan et qui à un moment en viennent à tomber, que ce soit avec un péché, avec le péché sexuel, l'adultère, que ce soit avec la philo-argoura, l'amour de l'argent. Et il semble que nul ne soit à l'abri de cela si l'on n'y prend pas garde. On peut se croire quelqu'un parce qu'il y a des personnes qui nous écoutent pendant 30 minutes ou 45 minutes ou une heure chaque semaine. Mais là n'est pas le but. Le but, notre pasteur, le créateur, l'homme à l'origine du mouvement de Calvary Chapel, disait qu'un enseignant, quelqu'un qui amène la parole, qui enseigne la parole, doit nous enseigner à nous soumettre à Dieu et non pas à lui. Ça, c'est très important. Ce qui compte, c'est pas ce que je peux, les anecdotes personnelles que je peux vous dire, vous raconter pour essayer de réveiller votre attention. Si elle, je pense qu'elle est un peu endormie par la fatigue ou mon ton de voix monocorde. Mais c'est la vérité de la parole de Dieu. Et Paul disait que les habitants de Bérée étaient meilleurs que les autres parce qu'ils allaient voir si ce que Paul leur annonçait était vraiment dans la parole. Paul, l'apôtre Paul, donnait le même conseil à Timothée dans 1 Timothée 4, 16 ou 4, 10. Il disait « Veille sur toi-même, 16, pardon, veille sur toi-même et sur ton enseignement. » Donc, que tu aies un bon bilan et que tu sois aussi fidèle à la parole de Dieu. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Et il ajoutait, mets-y de la persévérance, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Et aussi ceux qui t'écoutent. Donc, il est très important de ne pas prendre la responsabilité d'enseigner à la légère. Il est possible aussi que certains font allusion au fait que il y avait des apôtres qui avaient vécu. La lettre, on le sait, a probablement été écrite en l'an 67 ou 68. On sait que c'était avant la destruction du temple de Jérusalem, car il n'y est pas du tout fait allusion. Il y avait donc encore des apôtres vivants. Il n'y avait que très peu de copies des Écritures, et dont l'importance, celui qui lisait et annonçait les paroles, c'était de ne pas les oublier. Rappelez-vous qu'ils ont souffert et que leur vie a débouché sur le martyre pour Christ. Et Paul disait aussi, « Je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu. » Dans Acte 20, « Prenez garde, donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque, c'est-à-dire superviseur. » C'est pas l'évêque au sens catholique, avec le costume l'anneau, le chapeau, le bâton, non. Et évêque, ça veut dire simplement celui qui supervise. Pour faire paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Il nous confie une Église des personnes pour lesquelles il a payé par le sang. Il prêche Jésus-Christ. Paul disait dans 1 Corinthiens 1, 23, « Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. » Rappelez-vous vos serviteurs. Et puis, on va sauter le verset 17 qu'on a lu, le dernier verset. On va relire 17 et 18, pardon. « Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur votre âme en hommes qui devront rendre des comptes. Ils pourront ainsi le faire avec joie et non en soupirant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Et là, verset 18, « Priez pour nous, nous sommes en effet convaincus d'avoir une bonne conscience, puisque nous voulons bien nous conduire en toutes circonstances. » Et puis il ajoute, « Je vous invite plus particulièrement à prier pour que je vous sois rendu plus tôt. » Il y avait des obstacles au fait qu'il soit réuni avec ses lecteurs et il demande que la prière soit élevée pour libérer cela, pour que les obstacles soient éliminés. « Obéissez à vos conducteurs, à vos dirigeants, à vos responsables. » C'est malheureusement un verset qui est utilisé à mauvais escient, dans un mauvais but, pour imposer des fois une autorité excessive dans certains mouvements, le pasteur prend une place tellement importante dans leur théologie qu'il contrôle en fait la vie des chrétiens dont ils ont la responsabilité. Il faut demander aux pasteurs s'ils peuvent prendre tel ou tel job, s'ils peuvent se marier avec telle ou telle personne, s'ils peuvent même déménager où et quand. Et c'est un mouvement qui a fleuri aux États-Unis. C'est toujours là qu'il y a des mouvements qui partent dans tous les sens, parce qu'il y a une grande liberté de religion. Il y a beaucoup de spiritualité, entre guillemets. Croire en Dieu n'est pas là-bas considéré comme un signe de bêtise. Et donc, ça ouvre la porte à des choses qui ne sont souvent pas bonnes si elles ne sont pas en accord avec la Bible. C'était le mouvement des bergers, par exemple, ce qu'on appelle le Shepherding Movement. Il y avait une fameuse, c'était à Boston, l'église de Boston, ou à Kansas City, et il y avait une autorité excessive qui rappelle un peu ce que Jésus disait dans Marc 10, 42. Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent, et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en est pas de même parmi vous, mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Pierre 5, 2 et 3, Pierre dit la même chose. Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, ni pour un gain sordide, mais de bon cœur, non en tyrannisant ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et donc, c'est intéressant, c'est le responsable, le leader doit être un serviteur. Le plus grand, c'est celui qui est au service du plus grand nombre. Contrairement à la philosophie du monde où le leader, c'est celui qui se fait servir. C'est celui qui claque du doigt, qui se fâche et tout le monde court et tremble et accomplit ce qu'il a demandé. Donc Jésus est venu, il nous a donné le modèle du servant, serviteur. Il est venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour le plus grand nombre. Et donc tout ce qui, dans l'Église, vous rappelle les hiérarchies humaines, il faut y prendre garde. J'ai reçu une question pour une traduction, justement quelqu'un qui traduit des fondements pour un mouvement missionnaire, et il cherchait une bonne traduction pour leadership qui est participative et qui est servant leadership. Et c'est intéressant que c'est difficile à traduire en français parce que c'est un concept un peu étrange, un peu étranger à notre culture. Le chef, c'est celui qui tape du poing, c'est pas celui qui va servir tous les autres. Et le chef, c'est aussi, d'après cette philosophie de ce groupe missionnaire, c'est celui qui invite les autres à participer, qui fait fonctionner le corps. Et donc, c'est en échange de ça, si vous voyez qu'ils enseignent, ils vous donnent de la bonne nourriture et qu'ils sont humbles, qui sont prêts à vous servir, que vous voyez que le bilan de leur vie est quelque chose qui fait honneur à Dieu et non pas l'inverse, alors vous êtes invités à leur obéir et à leur être soumis. Le mot soumission, c'est un mot qui fait hérisser le poil des bons Français que nous sommes. Nous sommes des révolutionnaires, nous sommes des rebelles, nous en sommes fiers. Ni Dieu, ni maître. On ne veut pas se soumettre à qui que ce soit. C'est parce qu'on connaît mal ce qu'est vraiment la soumission. On ne comprend pas ce qu'est être soumis parce que tout autour de nous, on voit des exemples où la soumission conduit à des abus. Que ce soit dans l'entreprise, où le patron peut être un tyran, mais on se soumet parce qu'il y a un chèque de paye à la fin du mois, que ce soit dans le mariage, où la femme qui doit être soumise à son mari comme son mari est soumis à Dieu et est prêt à mourir pour elle. Souvent, on n'a pas ce genre de soumission dans le mariage. C'est le mari qui dit à sa femme, « Tu dois te soumettre parce que c'est dit dans la Bible. » Et là aussi, l'auteur de cette lettre, peut-être c'est pour ça que Paul n'a pas mis son nom, vous dit d'être soumis à vos conducteurs en matière de foi et non pas dans tous les détails de votre vie, bien entendu. Parce que ils veillent au bien de vos âmes dont ils devront rendre compte. La soumission, juste encore un petit ajout, c'est ce qui permet à un organisme de fonctionner. On a vu les grands défilés, le grand défilé du 14 juillet, on a vu ou on n'a pas vu, je vous en... ou à Nice. Et là, on voit comment il y a un ordre, il y a une hiérarchie qui est mise en place. Et pour que l'ensemble fonctionne, il faut que le capitaine soit soumis au commandant, que le commandant soit soumis au colonel, que le soldat soit soumis au sergent, le sergent au sergent-chef. Il y a une hiérarchie qui doit être respectée pour que l'ensemble fonctionne. Et sans cette hiérarchie, c'est la pagaille. Là, nous faisons une grave erreur, c'est de penser que si nous sommes soumis à quelqu'un, ça veut dire que l'autre personne est supérieure à moi. Et c'est pas ça qui nous gêne tellement, c'est l'idée de penser qu'on est inférieur à quelqu'un d'autre. Mais, encore une fois, ce n'est pas une question de jugement de valeur intrinsèque, c'est une question de rôle dans un cadre donné. Si tout le monde venez ici pour donner son avis sur un verset, ce serait le brouhaha, ce serait la cacophonie. Dieu veut que les choses soient faites dans l'ordre. Et encore une fois, c'est pas parce que le soldat se soumet à son chef hiérarchique qu'il est moins que ce chef hiérarchique. Il y a un grand poète, Guillaume Apollinaire, qui était dans l'armée, qui était blessé. Il était soumis à son capitaine, à son chef de corps, etc. Mais ça ne veut aucunement dire qu'il était moins, au niveau humain, au niveau de ce qu'il a pu accomplir, que ces personnes. Dans le cadre de l'armée, il se soumettait. Mais si vous lui donniez du papier et une plume, il écrivait des poèmes que le chef des armées n'aurait pas été capable d'écrire. Donc encore une fois, dégagez-vous de cette idée, soumission, abus, moindre valeur, c'est pas du tout le cas. Obéissez à vos conducteurs, soyez leur soumis. Pourquoi ? Parce que vous pouvez, s'ils sont de bons serviteurs, de bons responsables, vous le voyez par la façon dont ils annoncent ce qu'ils annoncent. Est-ce que ce sont leurs idées ou les idées de Dieu décrites dans la Bible ? Vous pouvez en juger vous-même. Et c'est important de savoir que, encore une fois, l'enseignement est le bilan de la vie. Mais une fois que vous faites ça, soyez-leur soumis dans les choses relatives aux choses spirituelles, dans l'Église. Ça peut être une hiérarchie, entre guillemets, avec un modèle où il y a un pasteur principal, ou bien ça peut être un collège d'anciens, mais de toute façon, il y a une autorité, et il faut être respecté cette autorité pour le bien de l'Église. Si on décide, après avoir prié, après avoir eu une opportunité de faire une action, essayer de, autant que faire se peut, de soutenir et d'être présent. Pourquoi ? Parce que ces personnes ont des comptes à rendre. Et c'est quelque chose d'intimidant, quelque chose sur laquelle je devrais perdre du sommeil. C'est bon de pouvoir dormir parce que ça permet de se recharger les batteries, mais en même temps, votre bien-être spirituel, ça devrait être quelque chose dont j'ai la responsabilité, ça devrait être quelque chose qui m'accapare, qui me possède quelque part. Et c'est toujours triste, non seulement triste, mais inquiétant, lorsque je vois que des personnes qui ont été membres ou participé à la vie de l'Église pendant longtemps partent dans le péché, s'endurcissent, on voit des conséquences sur leur famille, sur leur vie, et c'est quelque chose de triste, mais c'est quelque chose aussi d'inquiétant pour moi. Où est-ce que j'ai failli, où est-ce que j'ai pas été assez proche d'eux pour les reprendre en temps voulu? C'est quelque chose de, c'est un avertissement solennel. Ça rappelle Jacques, qui disait dans Jacques 3:1, « Ne soyez pas nombreux à vouloir être docteurs, c'est-à-dire enseignants de la parole, mes frères, car vous savez que nous subirons un jugement plus sévère. » Vous pouvez vous réclamer d'une certaine ignorance ou d'un oubli de certains passages de la Bible, mais moi qui ai la responsabilité de vous les rappeler, donc de les connaître, je serai face à un jugement plus sévère que ceux qui ne se prétendent pas docteurs ou enseignants de la parole. Mais une remarque intéressante, c'est la dernière partie du verset 17, où il est dit que, donc aux personnes dans l'Église, soumettez-vous à eux afin qu'ils puissent avoir cette responsabilité avec joie et non en soupirant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Un pasteur a dit, la responsabilité de faire que les activités au sein de l'Église soient une joie et non pas un fardeau, ça incombe non pas aux responsables de l'Église, mais à la congrégation. On a tendance à, surtout dans notre culture française, à tout mettre sur le dos du pasteur. S'il y a des problèmes de parking, c'est la faute au pasteur qui n'a pas trouvé un bon endroit avec du parking. S'il n'y a pas d'activité pour les personnes âgées, c'est que le pasteur est négligent, etc., etc. On a tendance à venir juger le pasteur, et certains font l'expérience de... Alors, il n'y a rien de mal à venir visiter une église, mais il y en a pour qui c'est une activité professionnelle. On n'a pas des brebis, disait un autre pasteur de mes amis, il disait... On a des papillons. On a des papillons qui vont butiner à droite, à gauche. Il y a un concert ce jour-là, il y a un tel invité, ce jour-là, ils vont faire un pique-nique. Ah, on va aller là. Et c'est... On a tendance, donc, oui, je disais, à juger comme les juges qui vont noter le patinage artistique. Alors, au niveau de la louange, il y a un 4-9. Mais alors, le sermon, c'était plutôt du 3-6. Et donc, pas de grâce, hein, on est tous à la merci d'un mauvais jour, mais si on chute une fois, c'est comme si on chute en patinage, en finale, il n'y a aucun espoir d'être rattrapé. Alors qu'en fait, le pasteur et les anciens sont responsables de faire que le corps serve. Ça, c'est dans Éphésiens 4, ce célèbre passage. C'est lui qui a donné, parlant de Dieu, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme des évangélistes, les autres comme des bergers et des enseignants. C'est Éphésiens 4, 10. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Autrement dit, le ministère, le service, il doit être fait par le corps de Christ, pas seulement par le pasteur ou par les responsables. Eux sont là pour vous former aux tâches du service, pour que le corps soit édifié, soit bâti. Et donc, il y a tous ces exigences qui sont placées sur le pasteur. Et je vais dire avec Jean, qui disait dans 3 Jean, la troisième épître de Jean, 1-4, il n'y a qu'un seul chapitre, « Je n'ai pas de plus grande joie que d'entendre dire de mes enfants qu'ils marchent dans la vérité. » Pour un pasteur qui a à cœur la croissance spirituelle de son troupeau, entre guillemets, je n'aime pas le mot troupeau, c'est un peu vulgaire en français, mais des personnes qui lui sont confiées, c'est de les voir venir à Christ et de les voir venir grandir solidement dans la foi. De voir la joie qui marque leur vie, de voir une vie transformée. Et Dieu merci, il nous a bénis avec ce genre de personnes. Mais c'est vrai que si chaque fois qu'ils vous disent ou ils vous encouragent à faire quelque chose, à servir par exemple, à vous impliquer dans la vie de l'Église, vous rouspétez ou vous les ignorez, ils vont avoir du mal à rendre compte de vos âmes et ils ne vont pas pouvoir le faire avec joie. Ah, les membres de Calvary Chapel, ah là là, aïe aïe aïe. Non, il veut qu'on puisse vraiment le faire dans la joie. Et une façon de montrer que vous priez, plutôt que vous aimez et que vous soutenez, que vous êtes prêt à les obéir s'ils ont légitimé cette responsabilité par ce qu'ils enseignent et par ce qu'ils vivent, alors, comme l'auteur de la lettre aux Hébreux, je vous demande de prier pour nous. Le pasteur a besoin de prière. Tout le monde a besoin de prière. Et nous devons tous prier les uns pour les autres. Mais des fois, on a tendance à penser, puisque c'est le pasteur, c'est son travail, il est dans la parole, il est toujours en train d'organiser des réunions de prière, etc. Il n'a pas besoin de prière. Et je vais vous demander surtout de prier pour moi, quand vous pensez à quelque chose que je fais qui vous irrite. S'il y a des choses, au lieu de prier ou d'en parler avec d'autres personnes et de propager un esprit de mécontentement, allez à Dieu et dites-lui, Seigneur, Pierre a vraiment besoin d'être transformé là. Je me prends un exemple parce que c'est moi qui vous enseigne, mais quel que soit le responsable, même d'un groupe de maison, si vous tournez les critiques que Satan veut mettre dans vos cœurs en, en prière pour les personnes. Et ça va tout changer. Ça va vraiment tout changer. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ces versets, ce verset. Souvenez-vous de vos conducteurs. Et moi-même, je me souviens de mes conducteurs, des personnes qui m'ont fait grandir dans la foi. Vous connaissez le pasteur Wayne, vous avez entendu parler du pasteur Chuck Smith et les autres, les gens que vous respectez, qui sont des encouragements pour vous à persévérer dans la foi. Priez pour eux. Remerciez Dieu pour ce qu'ils ont permis de faire et priez surtout pour leur protection. Satan veut faire tomber les responsables parce qu'il sait que lorsqu'un responsable tombe dans l'adultère, se fait prendre parce qu'il a volé de l'argent des fonds de l'Église, non seulement lui est hors service, mais ça affecte beaucoup des personnes qui étaient sous sa responsabilité. Il y a tendance, et c'est quelque chose que je vous demande toujours d'éviter, et avec moi il n'y a pas de problème parce que je ne suis pas si sain que ça dans mon comportement. On me voit piquer des colères, on me voit réagir courtement. La tendance, le danger, c'est de mettre les responsables sur un piédestal et de penser que c'est un serviteur de Dieu. Ça, c'est une expression utilisée dans les annuaires évangéliques, serviteur de Dieu. Je trouve ça, c'est bien, on est tous serviteurs de Dieu, mais on a l'impression qu'on est une race à part au-dessus des autres. Non, j'ai simplement répondu à ce que j'ai pensé dans mon âme et conscience à être un appel de Dieu à essayer de répandre sa parole, ni plus ni moins. Je ne prétends pas être arrivé, mais je tends vers l'appel, le but de l'appel de Dieu en Christ Jésus. Jésus-Christ, verset 8, est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines étrangères. C'est le même mot xéno, xénophobe, xénophilia, les doctrines étrangères. Il est bon en effet que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont été d'aucun profit à ceux qui s'en sont fait une règle. Nous avons un autel dont ceux qui accomplissent le service du tabernacle n'ont pas le droit de tirer leur nourriture. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Nous vivons dans un monde caractérisé par le changement. L'auteur avait déjà commencé, on en avait fait une remarque, dans le premier chapitre de Hébreux, il avait dit, à partir du verset 10, « C'est toi, Seigneur, qui au commencement, parlant à Jésus, a fondé la terre et le ciel et l'œuvre de tes mains. Eux, ils disparaîtront, tandis que toi, tu restes là. Ils vieilliront tous comme un vêtement, tu les enrouleras comme un manteau, ils seront remplacés comme un vêtement. Mais toi, tu es toujours le même et ton existence n'aura pas de fin. » Il y a quelque chose de rassurant dans quelque chose qui dure, qui ne change pas, qui est stable. Notre monde est très volatile, toujours en train de vaciller. Même des partis politiques centenaire se retrouve du jour au lendemain balayé par l'histoire, ou apparemment balayé ou affaibli à un tel point qu'ils n'ont plus aucune espèce d'impact important. La technologie change. Je me souviens, il y a une dizaine d'années, mes enfants m'avaient offert pour mon anniversaire un iPod. Pas un iPhone, un iPod. C'était tout petit et on pouvait charger plein de chansons dessus. Et il y avait même un petit écran pour essayer de les choisir, de choisir les chants qu'on voulait entendre. Il fallait des écouteurs parce qu'il n'y avait pas de haut-parleur intégré. Et maintenant, cet iPod qui à l'époque valait déjà une petite fortune ou une bonne somme, maintenant c'est notre petite fille qui l'utilise comme un téléphone. Ça vaut pratiquement plus rien. Et notre économie, l'économie du monde occidental, est basée sur l'obsolescence et sur la découverte, sur les nouveautés. Il y a déjà un iPhone 8 et même déjà un 9 qui pointent leur nez à l'horizon. On est souvent aussi mené par les modes. En ce moment, j'ai remarqué, c'est des hauts talons à la plage avec un talon en liège. Alors si vous en avez, c'est pas parce que je vous fais un reproche, mais l'autre jour, je me disais, c'est bizarre, on voyait pas ça il y a 2 ans. Mais maintenant, c'est le truc à avoir, si on veut être à la mode, si on veut être cool. Et pareil pour les hommes, il n'y a pas que les femmes. Hein. Il y a quelques semaines, j'ai commencé à porter un pantalon avec des jambes très fines. Là, j'ai tombé le pantalon pour le short, parce qu'il fait trop chaud avec ces pantalons. Mais aussitôt, on m'a fait des compliments. Waouh ! Tu es cool. Et tout ça, ça contribue à faire que ce qui est stable, ce qui demeure, rassure, fait du bien. On a tous des endroits qu'on aime, où on a grandi, où on a connu dans notre enfance, et de les retrouver 10, 20, 30, 40, 50 ans plus tard, si on arrive à cet âge de dinosaure, ça rassure, ça fait du bien. Il y a des choses qui ne changent pas. Eh bien, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité. Il ne change pas. Autour de nous, il y a toutes sortes de doctrines. Mais on peut dire souvent que si c'est nouveau, ça n'est pas vrai. Si c'est vrai, ça n'est pas nouveau. Pourquoi ? Parce que la Bible nous a été donnée il y a près de 2000 ans. Et certains, leur but, c'est de trouver quelque chose que personne n'a encore vu dans la Bible. Ils sont prêts à aller à des extrêmes pour tordre un peu les mots, le texte, les références. Non, si vous vous contentez d'étudier à fond et de vivre et de mettre en pratique la parole de Dieu telle que nous l'avons reçue, alors j'ai aucun souci pour votre croissance spirituelle. Parce que c'est Jésus, par l'Esprit Saint, qui a inspiré, Jésus qui est le centre de la Bible, c'est lui qui est le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité. Il ne change pas parce que il n'y a pas de raison de changer la perfection. Si quelque chose change, c'est qu'elle n'est pas parfaite, ou alors qu'elle se dégrade. Mais la vraie perfection n'est même pas susceptible d'altération, de changement. C'est le grand barde, le grand poète anglais Shakespeare qui disait « Love is not love, love which alters when it alterations find ». Ça veut dire simplement que l'amour n'est pas l'amour si c'est un amour qui s'altère lorsqu'il trouve de l'altération chez l'autre. L'amour agapé n'est pas sensible aux autres. Il a toute sa force, toute sa puissance invincible dans le fait qu'il dépend que de celui qui le donne. Et cet amour venu d'ailleurs, c'est l'amour que Jésus a démontré à la croix en mourant pour moi. Et il n'y a pas de plus grand amour. On ne peut pas améliorer l'amour de Jésus-Christ. Et peut-être vous dites, oui, peut-être qu'il y a cet amour qui brille, mais moi je peux essayer peut-être d'en recevoir davantage. Alors c'est vrai que ce qui est péché fait obstacle à votre sentiment, à votre réception, au sentiment de recevoir et d'être au bénéfice de cet amour. Mais cet amour, il a été donné et il ne dépend pas de vous. Dieu ne vous aime pas davantage maintenant que vous êtes chrétien, que vous êtes engagé dans une église, qu'avant lorsque vous étiez un païen qui jurait, qui... C'est difficile à croire. C'est difficile à admettre, à recevoir, à intégrer. Mais c'est cet amour-là qui va vous transformer. Romains 2, 15, c'est la bonté de Dieu qui nous mène à la repentance. Lorsque je m'aperçois qu'il m'aime de façon inconditionnelle, je ne peux pas continuer à pécher. J'ai besoin, je veux lui répondre. Et la façon de répondre... C'est de lui obéir. Il n'y a pas un jour où vous dites aujourd'hui je ne devrais pas prier, demander quelque chose à Dieu parce qu'il est peut-être de mauvaise humeur. Ou il est fâché parce que j'ai fait. Non, il est conscient de ce que vous avez fait, il l'a su de toute éternité. Il est attristé, l'Esprit Saint est attristé, mais il n'a pas changé dans son amour pour vous. Mais nous, pour lui montrer que nous l'aimons, la seule façon, c'est de lui obéir. C'est pas de dire « Oh, j'ai des merveilleux amours dans mon cœur pour le Créateur de l'univers. » C'est très bien si vous avez cet amour. Mais Jésus nous reprend « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Celui qui a mes commandements, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Ça c'est Jean 14, 15, 21 et Jean 14, 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. Une façon de l'aimer, c'est de l'aimer en esprit et en vérité. Celui qui s'approche de Dieu doit l'aimer en esprit et en vérité. Non pas en suivant des rituels. Souvent, les rituels externes peuvent donner place à l'hypocrisie. On commence avec le cœur dans un bon endroit, mais on peut continuer à faire les rituels et avec des motivations qui s'altèrent et qui deviennent même mauvaises. Je donne de l'argent à ce mendiant parce que mon cœur est touché par sa détresse et je veux l'aider. Ça, c'est une bonne motivation. Mais si je donne un plus gros billet parce que je suis avec quelqu'un et que je veux les impressionner par ma générosité, j'ai perdu là... le bénéfice que j'aurais pu accroître au paradis, ou dans le ciel plutôt. Et c'est pour ça que l'auteur nous met en garde contre la loi. Il a cette phrase fantastique. Il est bon en effet que le cœur soit affermi par la grâce. Et non par des aliments qui n'ont été d'aucun profit à ceux qui s'en sont fait une règle. Nous avons un autel dont ceux qui accomplissent le service du tabernacle n'ont pas le droit de tirer leur nourriture. Le cœur doit être affermi par la grâce. par la grâce de Dieu, on peut affermir son cœur ou penser qu'on affermit son cœur en se basant sur des choses que l'on fait. On peut penser que je suis approuvé par Dieu parce que je respecte de façon pointilleuse une liste de règles externes. Et là, il fait allusion justement à ceux qui se priver de certains aliments. On sait que les Juifs, aujourd'hui encore, sont très sensibles, et c'est à les Juifs orthodoxes, à ce qu'ils mangent, à ce qu'ils ne mangent pas. Il y a des choses pures et des choses impures. Jésus a dit que ce qui compte, c'est votre cœur. Que les mauvaises choses, elles viennent du cœur. Elles ne viennent pas de manger des huîtres, ou sauf si elles sont avariées. Mais on a tendance, dans certains mouvements, il y a même des mouvements qui se réclament de Christ, qui sont très à cheval sur leur nourriture. Il nous dit qu'en fait, nous sommes établis, nous sommes affermis par la grâce, c'est-à-dire par la compréhension et l'appropriation que je suis approuvé totalement et d'une façon que je ne mérite pas par Dieu. C'est la définition de la grâce. C'est une faveur que je ne mérite pas. Et ma seule approbation, ce qui va me rendre fort, ce qui va me permettre de vivre ma foi de façon fructueuse, en résistant aux tentations, en résistant aux persécutions, c'est que je suis affermi, mon cœur est affermi par la grâce. Et des fois, la parole de Dieu, même traduite en français ou dans d'autres langues, elle devient sublime. Que votre cœur soit affermi par la grâce de Dieu. On peut le dire de façon religieuse en survolant et en... Mais c'est une prière à prier pour les autres. Je prie que ton cœur soit affermi par la grâce de Dieu. Que ta force, elle vienne non pas de ce que tu es un gentil petit chrétien, mais de savoir qu'il a donné sa vie parce qu'il t'aime et que tu ne le méritais pas. Et ça vous transforme un homme ou une femme. Être affermi, votre cœur soit affermi par la grâce. C'est le genre de choses qu'on pourrait demander à graver sur une tombe. Il voulait que son cœur soit affermi par la grâce. Une idée d'épitaphe. Et non par des aliments qui n'ont été d'aucun profit à ceux qui s'en sont fait une règle. Ah, ils ne mangeaient pas telle viande. Aujourd'hui encore, on ne doit pas... Il est dit dans la loi, dans l'Ancien Testament, qu'on ne doit pas manger la brebis dans le lait de sa maman. Donc, aujourd'hui encore, en Israël, on ne vous sert pas de lait si vous mangez de l'agneau ou des choses comme ça, parce qu'on ne sait jamais. Et donc, qu'est-ce que ça... Comment ça change votre vie, ça? Oh, c'est bien. Et on a tendance, parce que c'est plus facile de se laisser inspecter de l'extérieur, que de laisser l'Esprit-Saint nous inspecter à l'intérieur. Et c'est ce qu'il veut faire.